bien le fa la 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 la. On sera en visioconférence, fa la 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 la.
Studio, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio?
Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Valérie Levé et voici votre magazine de culture scientifique Futur Simple. En début d'année, il est coutume de se souhaiter la bonne année. C'est ce que nous avons fait en 2020, en janvier 2020, sans nous imaginer aucunement de ce que 2020 nous réserverait. Aujourd'hui, il est bien difficile de se prononcer sur 2021, mais disons que l'arrivée des vaccins nous permet d'espérer qu'elle soit meilleure que 2020, et ce que je nous souhaite à tous et toutes. Et pour commencer cette nouvelle année, on va parler d'une naissance. La naissance du Big Bang, c'est le nouveau livre de Jean-René Roy, paru cet automne aux presses de l'Université Laval. Jean-René Roy est astrophysicien, professeur associé au département de physique de l'Université Laval et chroniqueur régulier à Futur Simple depuis 5 ans. Bonjour Jean-René et merci pour cette belle collaboration.
Bonne retrouvaille Valérie et bonne année à vous et à tous nos auditeurs.
Alors Jean-René, ce n'est pas le premier livre que vous nous offrez, mais celui-ci est particulier parce que vous reprenez et vous commentez des conférences de Georges Lemaître, qui est, si on peut résumer, le père de la théorie du Big Bang. Alors pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui est ce Georges Lemaître?
Donc, pour éviter toute confusion, parce que des gens ont cru, ont mentionné dans certaines radios que ça avait été un ouvrage fait à quatre mains, donc Georges Lemaître et moi, et non. Donc, l'ouvrage est paru en 1946, donc ça fait 75 ans. Et Georges Lemaître, il est connu plus ou moins dans les circuits de la science. Beaucoup plus connu parmi les astronomes et les cosmologistes. Donc, c'est un cosmologiste, quelqu'un qui étudie l'univers à grande échelle. Georges Lemaître est belge. Il est né en Belgique à Charleroi en 1894. Il est décédé à Louvain en 1966. Il a fait essentiellement carrière à l'Université de Louvain comme professeur de mathématiques, de mécanique céleste, de cosmologie, un très grand spécialiste de la relativité générale, et on pourrait presque dire qu'il comprenait mieux la relativité générale qu'Albert Einstein lui-même.
C'est pas peu dire. Mais ce qui est particulier de Georges Lemaître, c'est que c'est un religieux aussi.
Oui, Georges Lemaître a été ordonné prêtre en 1923, mais ça a été peut-être... une aide pour lui parce qu'il a été bien supporté par ses collègues. Il a fait des études à l'Université catholique de Louvain et en 1924, il est parti pour l'Université de Cambridge, à Cambridge en Angleterre, où il a travaillé avec le grand astrophysicien Arthur Eddington. Et puis, il est passé aux États-Unis pour aller travailler au Harvard College Observatory de l'Université Harvard. Et il est, en fait, juste à côté, il a fait son doctorat au MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Il a eu officiellement son doctorat en 1927. Il est revenu à Louvain pour y faire carrière, mais c'est quelqu'un avec un immense entre-gens qui a voyagé beaucoup, qui a beaucoup interagi avec les plus grands physiciens de son époque. On pourrait dire que si aujourd'hui le maître équivalent nous arrivait, il aurait été en fait un candidat de premier ordre à un prix Nobel de physique, surtout dans cette nouvelle tendance de reconnaître les contributions en astrophysique comme majeures pour le domaine de la physique, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Lemaître.
Donc, dans ce livre-là, vous reprenez des conférences de Lemaître, donc des conférences qu'il a prononcées, et vous les commentez. Donc, c'est un exercice particulier. Donc, comment vous est venue l'idée, comment s'est arrivé ce projet de commenter des conférences de Lemaître, et qu'est-ce qui vous motivait à faire cet exercice, et quel plaisir vous y avez eu? Parce que j'imagine que vous avez eu un certain plaisir quand même.
Oh, absolument, surtout par mon intérêt aux questions d'astrophysique et en particulier aussi à cette dimension épistémologique, comment on connaît l'univers. Donc, c'est arrivé un peu, pas par hasard, mais par coïncidence, les presses de l'Université Laval ont démarré une nouvelle collection qui s'appelle Réminiscence, où il s'agit de republier des ouvrages oubliés ou qui gagneraient à avoir à être mis en nouvelle édition. Et évidemment, souvent, il est bon de mettre en contexte. Et par connaissance de ce qui s'est passé, j'ai réalisé que 2021 allait être le 90e anniversaire de la proposition fantastique de Lemaître qu'on appelait l'hypothèse de l'atome primitif, que l'univers eut un commencement il y a quelques milliards d'années et que tout espace, temps, matière, lumière a commencé à ce moment-là. Et c'était une idée absolument révolutionnaire. Et pour continuer dans l'esprit de votre question, Valérie, c'était aussi ce portrait, il y a ces 5 conférences, évidemment, le maître a donné beaucoup plus que 5 conférences, qui s'échelonnent entre 1929, donc 2 ans avant sa fameuse proposition de 1931, de l'hypothèse de l'atome primitif, jusqu'à 1945. Ouais. Et pour moi, ça représente une époque charnière dans l'évolution des idées en astrophysique et en cosmologie. Donc, c'était un portrait, en quelque sorte, que nous donne le maître sur les connaissances de l'époque et aussi de sa propre démarche, de l'évolution de ses propres idées. On voit ça dans un portrait là, qui s'échelonne sur pratiquement 16 ou 17 ans. Et on voit naître, en fait, c'est pour ça que j'appelle le livre « Naissance du Big Bang », on voit naître ce concept assez fantastique qui est à la base de la théorie qu'on appelle justement « Big Bang », on pourra y revenir aujourd'hui. Donc, c'est cet ensemble d'abord, une nouvelle collection et ma connexion, entre guillemets, avec ce monde des années 30 et 40 et le maître était une entrée parfaite dans ce monde où les nouvelles idées et les découvertes astronomiques font des bonds assez spectaculaires.
Ben c'est effectivement ce qu'on a l'impression de vivre en lisant ce livre, c'est le cheminement de la pensée de Lemaître au fur et à mesure que se développent ces nouvelles connaissances en astrophysique. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand on commence ces conférences, on commence vraiment par des questions fondamentales comme... est-ce qu'il y a un nombre fini d'étoiles ou infini d'étoiles? Genre de question que je m'étais jamais posée. Et donc, si le nombre est fini, quel est le volume? Combien ça prend de place? Quel est le volume? Donc, on commence quand même. Et où est-ce que nous sommes dans tout ce volume d'étoiles? Donc, on commence vraiment avec des questions fondamentales. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à travers ces questions-là, en fait, on s'attend à lire de l'astrophysique, mais on lit beaucoup de mathématiques, beaucoup de géométrie. Et là, ça nous fait faire de sérieux efforts de géométrie quand même.
Ouais. C'est peut-être la partie la plus difficile d'ailleurs, parce qu'avec nombre d'étoiles, dimension de l'univers, Lemaître nous amène à la question de géométrie. Quelle est la géométrie de l'univers? Et il le fait dans le cadre de la relativité générale, où la présence de matière va courber l'espace. Donc, est-ce qu'il y a assez de matière pour courber l'espace sur lui-même, ou si la matière est insuffisante pour finalement recourber et qu'on a un espace qui pourrait être infini, entre guillemets. Donc, il est quelque peu déboussolant, et surtout, je mettrai en garde le lecteur de pas trop passer de temps sur essayer de comprendre la géométrie elliptique. La meilleure approche est d'en faire comme la projection, tout comme souvent pour comprendre l'extraordinaire géométrie de la Terre, qui est une sphère. Pour comprendre la distribution des continents, on fait une projection Mercator sur un plan, et on voit sur une feuille tous les continents, sachant très bien que si on arrive à droite, on ne tombe pas en dehors de l'univers et de la Terre, on réapparaît tout de suite à gauche. Donc, c'est un peu l'approche de Lemaître de nous emmener dans ces géométries possibles de l'univers, qui sont des descriptions mathématiques pour mieux comprendre l'univers. Ça ne veut pas dire que l'univers a une géométrie telle qui a été intrinsèque. C'est notre façon à nous de décrire la structure de l'univers et son évolution.
Donc, effectivement, comme vous le dites, quand on ne faut pas s'arrêter juste à la lecture de ces conférences qui sont, en tout cas pour moi, qui sont assez ardues, mais d'où l'intérêt de vos commentaires qui suivent après et qui nous permettent de comprendre et de saisir le cheminement de Georges Lemaître.
Ouais, en fait, j'ai plus l'impression de prendre comme on nourrit les bébés, là, je vais pas du tout prendre la nourriture et de la mettre dans une forme que la personne peut digérer. La chose, quand même, pour revenir à l'introduction à Lemaître a fait, moi je dirais, trois, on peut en nommer plusieurs, là, il y en a au moins deux qui sont très bien connus et une troisième que je vais ajouter. Lemaître, en 1927, alors qu'il était tout jeune, a fait une interprétation de la relativité générale pour casser complètement un préjugé qu'avait Einstein d'un univers statique et éternel. Donc, il a montré, à la suite d'un autre chercheur russe dont je parle dans le livre, mais il ignorait ses travaux, que l'univers ne pouvait pas être statique. L'univers était dynamique. L'espace devait être soit en contraction ou en expansion. Et la solution que privilégie Lemaître en 1927, c'est que, se fondant sur des observations assez préliminaires des galaxies, où des chercheurs comme Vesto Slipher aux États-Unis ont montré que les galaxies paraissaient fuir de nous, paraissaient toutes s'éloigner les unes des autres. Lemaître dit, bon, si c'est comme ça, la solution qui est valable pour les équations de Einstein pour un espace qui est dynamique, l'univers est en expansion. Ça, c'est 1927. Et ça va étonner et même offusquer quelque peu Einstein, qui va mettre du temps avant d'accepter cette interprétation. Et ce n'est qu'en 1931, l'année de la fameuse publication de Lemaître à laquelle on peut revenir, que Einstein a accepté, oui, l'univers est en expansion, la meilleure solution, c'est celle-ci des équations dynamiques. Donc, ça, ça a été très intéressant et d'ailleurs, tellement étonnant que l'article de Lemaître en 1927 n'a pas attiré beaucoup l'attention. Mais c'est Lemaître, contrairement à ce qu'on peut penser, là, des fois, souvent, il dit que c'est Edwin Hubble qui a découvert l'expansion de l'univers. Ce n'est pas du tout le cas. Hubble, avec son collègue Milton Humason, a apporté des observations complémentaires absolument phénoménales qui ont confirmé la nature de l'expansion de l'espace par l'observation d'un très grand nombre de galaxies. Mais Hubble lui-même ne croyait pas à l'expansion de l'univers. Il trouvait des vitesses tellement fantastiques qu'il disait qu'elles ne peuvent pas avoir une réalité physique. C'était un autre phénomène qui affectait les spectres des galaxies qui produisaient cet effet.
Et donc, de cette idée, de cette constatation que l'univers est en expansion, donc Georges Lemaître se dit, on déroule ça en arrière, et à un moment donné, l'univers devait être comprimé sur lui-même, d'où l'idée de la théorie de l'atome primitif.
C'est ça. Donc, tout ça vient en 1931, donc exactement il y a 90 ans. l'astrophysicien Arthur Eddington, que j'ai mentionné, organise une conférence à Londres qui s'intitule « Le futur de l'univers ». Et il spécule, notre Eddington, sur l'idée d'un univers avec commencement, parce que là, il savait, il avait lu l'article de Le Maître, il l'a même traduit en anglais, et il avait énoncé l'idée, le commentaire assez provocant, que l'idée d'un commencement lui était répugnante. Mm-hmm. Donc, et en effet, pour tous les physiciens philosophes, l'idée d'un commencement d'univers était assez... désarçonnante, qu'on préférait un univers statique éternel. Les choses se renouvellent, recommencent, et on est toujours un peu, en quelque sorte, dans un état stationnaire.
Donc, cette idée d'un commencement à l'univers était complètement étrangère aux scientifiques à ce moment-là?
Oui. Donc, c'est pour nous un peu inimaginable que l'idée d'un univers avec commencement ait été aussi... que les gens étaient aussi rétifs à une telle idée. Et donc, le maître va reprendre son idée et il va produire ce petit article tout petit, qui est la moins d'une demi-page dans la revue Nature en mai 1931, donc quelques mois plus tard. Et le titre s'appelle tout simplement « The Beginning of the Universe from the Point of View of Quantum Theory ». Donc, le commencement de l'univers selon le point de vue de la théorie quantique. Et c'est là qu'il va proposer que l'univers a commencé dans un paquet initial qu'il a appelé atome primitif. Si le neutron avait été découvert à cette époque, ce qui était en 1932, il aurait probablement parlé de l'hypothèse du neutron primitif, une espèce de particule qui s'est divisée avec le temps. Donc c'est l'idée a été difficilement acceptée et ce ne sera que dans les années 60 que l'idée va vraiment réapparaître et faire son chemin pour devenir la grande théorie qu'elle est aujourd'hui.
Mais pourtant, à travers donc l'une de ces conférences, on voit que cette théorie, en même temps, ça lui permet d'expliquer quand même des observations qu'on peut faire à l'époque des nébuleuses, des galaxies qui sont organisées en amas, etc. Oui. Donc, pour lui, c'est une théorie qui rend compte des observations.
Oui, beaucoup. Et en fait, même, il commence à traiter de différentes questions, comme celle, qu'est-ce qui fait, par exemple, que certains regroupements de galaxies tiennent ensemble, ne sont pas emportés par le flot de l'expansion? Donc, à quelle échelle la gravité comme telle, la force attractive, tient les morceaux ensemble, la maison tient ensemble, mais au-delà d'une certaine distance, c'est l'écoulement, l'agrandissement d'espace qui emporte des choses comme les glaces à la surface du courant des eaux. Donc, il fait en fait ces hypothèses pour les mettre dans le cadre de sa théorie et expliquer la formation, entre autres, ce qu'on appelle des grandes structures, des galaxies dans son espace en expansion. L'autre chose aussi, ce qui est assez phénoménal, il dit que l'univers a eu des débuts très denses et très chauds et qu'il doit rester un vestige de ces débuts.
Ah oui?
Donc, et pour lui, il fait l'hypothèse que ce sont les rayons cosmiques. Donc, dans le sens que les rayons cosmiques, ce sont pas des rayons, ce sont des particules, ce sont des protons, des électrons, ce sont des noyaux d'atomes, et on reconnaît tous les atomes du tableau périodique. Donc, son hypothèse, qui est incorrecte, est que tous les éléments se sont formés à ce moment initial du Big Bang. Et comme tel, donc il y a quelque chose un petit peu d'apparence inconsistante, donc tout se désintègre, mais il y a quelque chose qui se passe quand même qui forme les principaux atomes au début. Cette idée est incorrecte. Seulement l'hélium, l'hydrogène évidemment, l'hélium, un peu de déthérium et de lithium qui s'est formé au tout début de l'univers. Le reste des éléments se forment dans les étoiles, dans différentes phases évolutives. Mais sa prédiction qu'il y a eu, qu'il y a un vestige qui reste, ça a été fantastique parce que, en effet, il existe une chaleur rémanente qui a été observée en 1964 par des radioastronomes américains qui faisait des expériences différentes pour améliorer les communications avec les satellites de communication et aussi pour avoir des meilleures techniques d'observation en radioastronomie, qui ont découvert, sans le rechercher, ce fameux rayonnement qui est dans les micro-ondes, qui correspond à de la lumière à une température de 2,7 degrés Kelvin. Donc, différent en nature de ce que l'homme avait fait l'hypothèse, mais qui représentait un résultat spectaculaire et qui a mis vraiment à ce moment-là la théorie du Big Bang au premier plan.
Mais là, donc, pour revenir à ce mot « Big Bang », il faut quand même en dire deux mots, parce que ce n'est pas de Georges Lemaître, ce mot-là. Et l'ironie, c'est que c'est d'un contradicteur de la théorie de l'atome primitif.
Exactement. Donc, Lemaître n'a jamais utilisé le mot « Big Bang ». Il parlait de « commencement », la théorie du commencement. Et c'est le grand physicien, astrophysicien, cosmologiste Fred Hoyle, de l'Université de Cambridge, en Grande-Bretagne, avec deux collègues autrichiens qui ont mis de l'avant une théorie contraire, opposée en tout cas, et d'un univers éternel avec création continue. Donc, au lieu d'avoir un univers qui commence à un certain moment et tout apparaît, espace-temps, pour Hoyle et ses collaborateurs, la théorie de l'état stationnaire est que l'univers est en expansion, donc l'univers doit avoir les mêmes propriétés où qu'on soit dans l'univers et à quelque moment qu'on soit. Donc, pour maintenir la densité constante, si on agrandit l'univers, ils font appel à la création, quelque chose comme d'un proton par mètre cube par million d'années. Donc, quelque chose d'inobservable. Curieusement, cette hypothèse qui nous paraît aujourd'hui un peu farfelue a été beaucoup mieux acceptée que celle de Lemaître à l'époque. Mm-hmm. Et pour revenir à votre commentaire, Valérie, c'est lors d'une émission en 1949 à la BBC que Lemaître a proposé le mot pour décrire la théorie opposée à la sienne, celle de Lemaître. Il l'a appelée la théorie du Bang, du Big Bang.
Vous voulez dire, c'est Hoyle, c'est Fred Hoyle qui a proposé ce mot-là.
Qu'il a proposé comme expression, juste sans trop y penser, de façon spontanée. Mm. Aujourd'hui, certains disent que c'était pour se moquer. Pas du tout. C'était surtout pour mettre en opposition sa théorie de l'état stationnaire avec celle d'un commencement où t'apparaît. Mm-hmm.
Donc, c'était par opposition il a parlé de la théorie de Georges Lemaître, il l'a appelé la théorie du Big Bang par rapport à la sienne, et finalement, les faits, les observations ont donné raison à la théorie de Georges Lemaître, et le terme Big Bang est resté.
Oui, le terme Big Bang est resté, sauf qu'il y a de plus en plus de cosmologistes qui essaient de s'en éloigner, entre autres James Peebles, qui a travaillé beaucoup. Ah, ouais. Dans la foulée des idées de Lemaître au développement de l'astrophysique des débuts de l'univers. Et James Peebles a eu le prix Nobel de physique l'an dernier pour sa contribution. Donc, les gens n'aiment pas trop. D'abord, ça donne l'idée absolument incorrecte que le début est une explosion. Ce n'est pas une explosion. C'est une espèce d'éclosion. Vous voyez ça comme une fleur qui s'ouvre. Donc, c'est l'espace, le temps, la matière, la lumière qui apparaissent. D'une façon où le contenu en énergie est très, très grand, mais c'est pas une explosion. C'est pas une explosion, ça se produit de quelque chose qui saute dans un milieu qui est préexistant. C'est pas le cas. Le Big Bang, entre guillemets, le commencement de l'univers selon Lemaître, c'est une éclosion. Les choses sortent comme une cellule qui s'autodivise, qui se différencie. Ce n'est pas une explosion, contrairement aux films d'Hollywood.
Et en tout cas, ça nous fait quand même une belle plongée dans la pensée de Lemaître. Et pour en savoir plus, il va falloir lire ce livre qui s'intitule « La naissance du Big Bang » et c'est aux éditions des presses de l'Université Laval. Alors, merci beaucoup, Jean-René, de nous avoir présenté ce livre et surtout d'avoir commenté les conférences pour qu'elles soient, digestibles pour le lecteur. Merci beaucoup, Jean-René.
C'était un grand plaisir.
Alors, nous étions en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. se termine Futur Simple et je vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je passe le micro de CKRL 89.1 à François Sam Fortin pour Transmission Transversale.
Est disponible en balado-diffusion.
Dans le nouveau numéro du magazine littéraire Nuit Blanche, un voyage d'hiver, le garçon qui raffolait des chasse-neige, une célèbre actrice de la belle époque qui quitte la scène pour se faire écrivaine et féministe engagée, aussi, dire et ne pas dire, la liberté d'expression et ses limites.
Offrez-vous ou offrez à vos proches un abonnement à Nuit Blanche. Le cadeau qui se renouvelle toute l'année. Pour en savoir plus, rendez-vous à nuitblanche.com.
Hey, surveillez les coupons rabais de la boîte à pain sur le site Antidote Mobile. 40% de rabais applicable à la boîte à pain de votre choix. Profitez de cette offre avant qu'il soit trop tard. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com.
Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement ici, deux redressements ici. OK, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir. Comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre 5 livres. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants de dinde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, ma dinde, hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. On garde la morale.
Un message du gouvernement du Québec.
Chez Matelas Confort, vous achetez local.
Pourquoi choisir
Matelas Confort? Qualité supérieure des matériaux, unique à Matelas Confort. Venez constater par vous-même. Nous fabriquons les meilleurs matelas de l'industrie depuis 45 ans. La qualité du fabricant, c'est Matelas Confort. Garantie. 1605 Henri Bourassa, 529-3585.
CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL.
Maison des métiers d'art de Québec. Les productions Recto Verso. L'Aubergine.
Maintenant, c'est à notre tour de les encourager.
CKRL 89.1.
Retrouvez Maggie Lennon en diffusion sur CKRL.